I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Et on est en direct sur Twitch. Jusqu'à il y a deux minutes, il y avait des travaux, il y avait de la perceuse. C'est vraiment, c'est l'aventure de mener un podcast. Il se passe tout le temps des trucs totalement inattendus.
Donc j'expliquais, voilà, il y avait des travaux chez moi. J'ai demandé à mon voisin d'arrêter les travaux. Il était super sympa. Pendant une heure, il nous laisse peinard. Parce que c'était du placo, donc ça a enfoncé dans le mur, donc c'était un petit peu violent. Je voulais juste dire qu'il y avait une nouveauté, c'était du côté là, le chat qui est tout beau, tout neuf. Il y a pas mal de choses aussi qui ont évolué. Vous verrez s'il y a des gens qui nous follow ou qui nous font des subs ou je ne sais plus comment ça s'appelle, il y aura des petites animations,
des petites surprises. Vous qui nous regardez sur
peut-être
Twitch,
que ça arrivera pas, Jérémy.
Mais si.
Alors
si.
Et puis l'amélioration aussi, c'est qu'on a bossé sur le son, donc normalement, il n'y a pas d'écho, il n'y aura pas Jérémy et notre invité qui se parleront dessus, donc ça devrait aller.
Ouais, on devrait pas avoir une voix un petit peu de science-fiction des années 80, ça devrait le faire. Ok, bon. Alors aujourd'hui, aujourd'hui c'est le grand retour des petites Clauderies, en compagnie de Claude donc, qui va nous rejoindre dans quelques instants.
C'est trop cool. Ah ben voilà. Hello.
Comment ça, ben voilà.
Eh ben voilà, on a une petite animation.
Ah oui.
Je l'ai vu en direct, c'est pour ça, toi tu les vois.
Les personnes qui nous écoutent en replay sur le podcast, vous vous demandez peut-être ce qui se passe, mais Laurent a créé des petites animes. Comme ça, quand quelqu'un nous rejoint sur Twitch, ça fait une petite animation bien cool, une raison supplémentaire de venir nous regarder en direct sur Twitch. Donc, pour ce quatrième rendez-vous en compagnie de Claude, parce qu'on a... On en avait déjà publié trois l'an dernier, des Clauderies. On part aujourd'hui avec lui en quête de sens. Et le sens, vous savez pertinemment qu'on aime ça sur ce podcast. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous aimerions, comme d'habitude, remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices qui nous ont rejoints dans les deux dernières semaines sur Patreon et Tipeee. On remercie du coup Annelise Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, que j'ai déjà reçu sur le podcast, Anne-Bénédicte Schubel, qu'on vient de recevoir sur le podcast, Étienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Bouzuge, désolé hein, si j'écorche vos noms parfois, Louiselle, Florence Flotte, Nina Chassetulier, Élise Angelbert, Véro Randriana, Béatrice Menuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vignot, Marion Coudert de Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvoux, que j'ai aussi reçu, Lou Bimi, Julie Bandy, Flore Cousserand, Mélanie Zézima, Grieving Cruise, Bérangère de Rennes et Mathilde Laurent. Un grand merci à vous. Et si vous désirez nous aider à développer Sens Créatif également et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, comme les épisodes exclusifs des Keepers of the Keys, une fois par mois, les zones cachées du Discord, ou bien les déblocages collectifs ou les rencontres régionales, enfin que sais-je. Rendez-vous sur www.patreon.com/senscreativepodcast ou sur Tipeee, www.tipeee.com/sens-creatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens pour nous rejoindre dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch.
Et voilà, donc, voilà. Et ben nous pouvons passer à l'épisode du coup, Jérémy, maintenant.
Oui, tout à fait.
Très bien. Alors, Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Eh bien, ce qui nous attend, c'est comme on l'avait dit, c'est le retour tant attendu des Clauderies. Vous les avez réclamés. Voilà, Claude est de retour. Il n'est pas encore là.
Il a un beau vélo.
Il a un beau vélo.
Ah oui, très très beau.
Donc les Clauderies, on vous rappelle un petit peu le format. En fait, Claude tient un blog absolument génial depuis des années où il raconte un petit peu ses expériences du métier d'illustrateur. Il reçoit aussi d'autres artistes en interview.
Ouais.
Il nous laisse ses pensées sur la toile. Vous pouvez le retrouver évidemment sur son site, mais également sur LinkedIn. Que pouvons-nous ajouter sur Claude, Jérémy, toi qui le connais depuis un moment maintenant?
Rien, faut l'inviter.
Ah,
Claude, il est comme toi. Il fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées au tout début quand je me suis lancé dans l'illustration et c'est devenu un très bon ami. Et puis on s'est suivis mutuellement et depuis, on se lâche plus à tel point que j'ai ramené Laurent et Claude sur Sens Créatif. Tu te rends compte? Donc du coup,
allez,
c'est une boucle qui se boucle et qui continue.
On fait comme au tête de guignol. Claude, il faut l'appeler. On appelle Claude. Et voici le voilà. Coucou Claude.
Salut, ça va?
Bah, super.
Salut Claude.
Ouais, bah, je suis content de vous retrouver. Là.
Toujours un plaisir. Claude, ah bah voilà, on te demande dans le chat. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Claude, pour ce premier épisode de reprise des Clauderies?
Ah bah, on va parler du sens, en quête de sens. Le sens de nos métiers, le sens qu'on donne à notre travail, quoi, tout ça. Voilà, donc c'est une vraie question qui traverse, on va dire, nos métiers, mais aussi l'ensemble de la société. Aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins en quête de sens dans tous les métiers. Mais je dirais même presque que c'est toutes les strates de la société, mais pas que au niveau professionnel. Dans la vie privée, on est traversé par des questions de société. On est obligé de se poser des questions aujourd'hui. Et nous, en tant qu'illustrateurs, illustratrices, on est confrontés à ces questions de société. On ne peut pas y échapper, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on trouve ces questions légitimes ou pas. On est confronté à ça. C'est notre métier, d'ailleurs, d'y répondre par notre travail.
Alors, Claude, tu as écrit un article, du coup, comme d'habitude, chaque épisode des Clauderies est inspiré et basé sur un de tes articles, Enquête de sens, que tu as écrit il y a plusieurs mois. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cet article? Pourquoi tu as ressenti le besoin absolu de mettre sur le papier tes pensées par rapport à ce fameux thème, Enquête de sens?
Oui, un petit peu comme tout le monde, j'ai traversé la crise du Covid. Et avec la crise et le confinement, il y a des questions qui ont surgi, c'est-à-dire on a bien vu que certains métiers étaient essentiels, d'autres pas, on voyait bien que les infirmières, les métiers du soin étaient hyper importants, qu'il y a des métiers, on travaille ou on ne travaille pas, dans cette crise, c'était pas la même chose. Et donc, en tant qu'illustrateur, je me suis dit, en fait, à quoi le sens de mon métier, c'est pas venu tout de suite, mais c'est venu après en disant je suis illustrateur ou pas, c'est pas essentiel a priori quoi. L'illustration, à mon avis, après avoir réfléchi sur la question, me semble pas un métier essentiel.
Ok, c'est bon, on se casse alors. Allez,
on se casse.
C'est déterminé.
Justement, on est entre nous. On peut en parler.
Du coup, si ton métier n'est pas essentiel, pourquoi continuer, quoi?
Complètement. D'ailleurs, pendant le Covid, les librairies n'étaient pas considérées comme une boutique, un magasin essentiel, de toute façon.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça qui a motivé mes réflexions sur ce sujet. Et puis, j'ai un peu essayé de creuser de tordre la question pour pouvoir continuer à travailler sereinement.
T'as cherché des excuses pour dire non, mais en fait, ça va, je peux quand même continuer.
On est obligé de se trouver des excuses.
T'es touché par ce qui se passe en ce moment, Claude, parce que l'actualité, elle est juste infernale, horrible. Je veux dire, ça s'enchaîne tous les jours, il y a des trucs de dingue. Il y a évidemment ce qui se passe en France au niveau politique, la réaction des gens aussi à tout ça. Il y a ce qui se passe sur le plan international. Il y a les faits divers qui sont tous plus horribles les uns que les autres. Je ne me souviens pas avoir vu un tel enchaînement de trucs horribles dans les news. Toi, est-ce que tu fais attention? Est-ce que ça touche? Est-ce que ça te bouffe le moral?
Oui. Alors, déjà, ça me mine le moral, mais je pense que l'actualité est hyper anxiogène, quoi. Mmh. Alors après, je suis partagé. Je suis partagé parce que je me pose la question dans quelle mesure les médias exacerbent pas les tensions, les mauvaises nouvelles, pour retenir l'audience, et dans quelle mesure il y a vraiment des situations critiques. Mais de toute façon, il y a des situations critiques, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que dans la façon de les relayer, ça prend une ampleur anxiogène. Et moi, j'ai un peu décroché parce que je peux plus, quoi. Humainement, il y a des moments où je sature, quoi. Enfin,
c'est sûr que les médias, une fois qu'ils ont une info, ils vont la bouffer jusqu'à la moelle, ouais. Et ils vont nous la repasser pendant 48 heures.
Ouais, je repense beaucoup à cette période du Covid où les premières semaines, j'écoutais en boucle les infos, mais c'était catastrophique et je me disais, mais ça y est, quoi, c'est la fin du monde. Et aujourd'hui, 2 ans après,
on est toujours là.
Tout ça a complètement disparu, toute cette anxiété a disparu. Alors il y a eu des dégâts, bien sûr, mais moi, à titre individuel, j'aurais pu me faire un cancer de l'estomac au moment de digérer tout ça, mais pour rien, parce que 2 ans après, un an après, on a la guerre en Ukraine. Pareil, à écouter la guerre en Ukraine, je veux dire, il y avait de quoi une crise de nerfs au début. Et puis là, on est un an après la guerre en Ukraine, un an et demi. Et quelle est la place qu'on y accorde dans les médias? Finalement, très peu. Très peu. Et donc, il y a des événements tragiques à tous les niveaux de la société dans le monde. Il y a des événements tragiques, mais on peut pas assimiler, moi en tout cas je peux pas assimiler tout, et du coup j'ai pris le parti de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et d'agir comme je peux à mon niveau, quoi.
Mais... après il me semble qu'on peut pas se mettre les doigts dans les oreilles et puis les mains devant les yeux et faire comme s'il y a rien qui se passait,
hein. C'est vrai.
Yann dit notamment on peut éteindre les écrans, évidemment, mais je pense que quoi qu'il arrive, on vit dans une société, donc on est quand même confronté à ce qui se passe dans la rue. Bah, notamment, voilà, bah, c'est sûr que quand tu habites à la campagne, il y a moins de choses dans les rues, je connais. Mais quand tu habites à Paris, tu peux pas ignorer les manifs, tu peux pas ignorer il y a des courses poursuites en voiture avec des policiers. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu de mes yeux.
Paris, c'est Chicago.
Bah, non, mais vraiment, il y a des fois tu te demandes et puis il y a finalement tu rencontres quand même des gens, on discute, hein, c'est normal de discuter politique, sociétal avec les gens que tu croises. Et évidemment, dans notre travail propre, si on travaille pour par exemple pour la presse, on est confronté à illustrer des articles sur ce qui se passe dans le monde.
Donc on peut pas ignorer. Et puis après, il y a être passif devant ton écran et devant ta télé, absorber tout ça. Et puis tu peux dire que non, tu peux aussi t'engager physiquement, aller manifester, je sais pas, enfin t'investir dans ta banlieue, dans ton quartier, dans tes... Et là, pour le coup, c'est constructif, quoi. Et là, tu es conscient de l'actualité, tu es conscient des problèmes et tu agis. Mais être passif devant sa télé et absorber tout, c'est pas possible, quoi. C'est enfin, voilà. Enfin, alors, je sais pas. C'est
comment agir à notre niveau en tant qu'illustrateur, illustratrice. Comment est-ce que t'as un peu trouver une sorte d'équilibre. Je fais de nouveau référence à ton article, évidemment.
Oui.
On n'est pas que des illustrateurs, des illustratrices. Nous sommes des hommes et des femmes, mais nous ne sommes pas réduits à notre métier. Donc, on est touché par tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est vrai que les raisons éthiques qu'on peut plus vraiment ignorer. Je me souviens, c'était avec les Jean-Claude, je crois, début de la saison 3. Ils bossent depuis très longtemps, ils avaient bossé avec des marques et tout, au début de leur carrière, on avait tous envie de péter le game, bosser avec des trucs prestigieux. Et puis je me souviens, je pense que c'est Sébastien qui m'avait dit, je suis plus sûr entièrement aujourd'hui d'avoir la même posture que quand j'ai débuté ma carrière, parce qu'aujourd'hui, on est plus au courant de ce qui se joue dans les coulisses. Et éthiquement, il y a cette difficulté. On a besoin de bouffer. On a un besoin de reconnaissance. C'est sûr que si tu bosses pour, je sais pas moi, Google ou Apple, bah tout de suite, ça envoie du lourd. Et de l'autre, tu te dis bon, si je bosse pour ces grosses marques, bon, j'ai cité celle-là, mais ça pourrait en être d'autres. Ça peut impliquer d'autres choses, comme bosser pour une marque de vêtements qui exploite des enfants à l'autre bout de la planète. Enfin, donc du coup, et je sais que c'est des questionnements qui travaillent aussi la communauté du Patate Club et sur Sens Créatif. Comment on fait pour un peu retrouver une sorte d'équilibre dans tout ça?
Oui, bah c'est difficile parce que c'est là tout le paradoxe. Si je regarde bien l'ensemble des boulots que je réalise, il y a 90% de ce que je réalise, c'est à des fins commerciales. 90%, même pas forcément pour des marques. Mais quand tu bosses pour un événement, par exemple, quand tu bosses pour les Jeux Olympiques, derrière, tu sais qu'il va y avoir des dégâts écologiques. Tu sais. Quand tu travailles pour n'importe quel magazine, journal en France, tu sais que derrière, il y a des grands industriels de l'armement. Tu participes à la vente de magazines, de journaux qui vont alimenter quelque chose que tu ne cautionnes pas forcément. Mais tu peux pas échapper à ça. Il y a combien de journaux indépendants en France? Combien de magazines?
T'appelles quoi l'indépendance?
Indépendant, tu peux prendre par exemple, je pense que le 1 est indépendant, tu vois.
Oui, oui.
Mais ils sont tous les ans en équilibre instable. Ils savent pas s'ils vont continuer. Ça, c'est une lutte.
Voilà. Quoi. Donc, quand tu travailles pour le 1, tu travailles pour les 10% de gens l'impact, il est, il n'est pas commercial, on va dire, quoi, entre guillemets. Mais plus que ça, en fait, quand tu travailles, même quand t'es éditeur, parce que moi je parle de mon travail de commande. Hein, derrière, il y a une demande, on attend quelque chose de moi. Et on ne le fait pas pour me faire plaisir, on le fait pour récupérer derrière quelque chose, quoi. Donc, même quand tu travailles pour l'édition, tu peux trouver ça plus noble, mais derrière, c'est quoi? C'est des bouquins fabriqués, si tu as inondé le marché de livres, de papier, c'est des arbres abattus, enfin tu vois.
Et puis on peut quasiment pas imprimer, enfin on peut pas faire toute la chaîne du livre en France. Enfin il y a un moment c'est juste pas possible économiquement, quoi.
C'est juste pas possible. Donc la question se pose pour quasiment l'ensemble de nos métiers de l'illustration. Très peu de gens peuvent vivre en étant complètement éthique à 100% et conforme à ses valeurs, quoi. C'est, ouais. Ou alors tu vis pas.
J'imagine que c'est réussir à vivre dans cette tension. Parce qu'on parle d'illustration, là, mais il n'y a aucun métier, en fait, qui est éthique à 100%.
Oui.
Tu travailles même, genre, pour le supermarché en bout de la rue. Éthiquement aussi, il y a plein de choses qui vont pas.
Participes. On est dans un système où on est tous partie prenante parce que c'est presque nos valeurs. C'est c'est le libéralisme dans lequel on vit, quoi. Donc, c'est lié et tu peux pas y échapper. Ou alors, tu vas vivre dans une grotte, mais tu peins sur les murs, mais même là tu saccages la nature, quoi.
Il y a aussi un truc qui fait un petit peu flipper, c'est le temps qui passe, en fait, parce que j'avais vu un reportage, je l'avais vu il y a longtemps, mais j'ai vu récemment un reportage sur Louis de Funès qui expliquait, en fait, lui c'est un passionné de jardinage, hein, donc à côté de son métier d'acteur, c'était vraiment passionné par les fleurs notamment, et je crois qu'il y a une rose qui porte son nom, il y a comme ça. Et il avait des serres immenses, hein, chez lui dans son domaine. Et en fait, il ne faisait que du bio, c'est-à-dire qu'il ne mettait aucun produit chimique dans son activité de jardinier. Et on vous parle de la fin des années 70, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? C'est fou. Enfin, ça a évolué, mais on n'a pas réglé ces questions-là. Voilà. Alors qu'elles existaient déjà il y a longtemps.
Ouais.
Oui. Après, il y a parmi nos métiers des gens qui dessinent, des illustrateurs et des illustratrices qui sont engagés dans une cause à 100%, notamment par exemple les causes politiques. Et à ce moment-là, ils investissent tout leur savoir-faire pour défendre une idée politique. Et là, pour le coup, c'est complètement éthique, mais c'est vraiment difficile, quoi. Moi, j'ai un agent. Tu vois, mon agent, tu me proposes un travail, et derrière c'est des marques, c'est des grands industriels, c'est des gens par la force des choses qui polluent, qui détruisent. Mais bon, mais c'est c'est difficile d'échapper. Hein. Moi,
T'es dans une chaîne aussi parce que les gens avec qui tu travailles ne sont pas de mauvaises personnes. Il y a même des gens avec qui t'as bossé souvent, qui deviennent des vrais collègues de travail. Et du coup, tu fais partie de cette chaîne-là. C'est pas toi tout seul, en fait, de ton point de vue, qui peut totalement décider je le fais pas, quoi. T'es engagé aussi avec des personnes avec qui t'as l'habitude de travailler.
Bah oui, bien sûr. Et puis, faut qu'on vive, quoi. Si c'est, moi, je pense à une jeune illustratrice, elle va peut-être se reconnaître si je parle d'elle, mais qui était passée me voir, on avait discuté, et elle avait fait le choix de quitter Paris et de s'installer en Lozère, il me semble. Oui, c'est en Lozère, dans une ferme ou je sais pas quoi.
T'as son adresse? T'as son adresse?
Non, on peut pas y aller. Il faut prendre un âne. Non, je plaisante. Non, qui avait choisi de s'installer pour des raisons éthiques, en disant, j'arrête les transports, on va se déplacer à vélo, je vais cultiver mon jardin, je vais travailler en graphisme pour les gens locaux.
Oui.
Il s'est avéré que quand elle est arrivée là-bas, son jardin a mis un an à le faire. Il y a eu un premier coup de chaud ou un premier coup de froid et tout est mort.
Elle n'a pas regardé la petite maison à la prairie, ça arrive quasiment toutes les saisons. C'est horrible.
Pour aller chercher sa baguette, il fallait faire 4 km en bagnole parce que à vélo c'était impossible en Lozère.
Donc tu utilises l'essence.
Voilà, et donc tu utilises l'essence. Et puis que, en termes de production locale, c'était quoi? C'était des vendeurs de miel bio qui n'ont pas une thune. Et puis tu vas pas faire des étiquettes pour eux. Ou si tu le fais, il y a pas de
limite, tu leur rends un service, ils te filent un pot de miel et tout le monde est content, quoi.
Voilà, alors tu peux pas vivre avec un pot de miel.
Mais tu peux pas vivre avec un pot de miel.
Donc résultat, c'est difficile d'échapper à tout ça, quoi.
On peut être habité par des idéaux et puis après on se confronte à la réalité du terrain qui est complexe, qui est difficile et puis au final on a besoin d'un peu de gagner sa thune aussi. Moi, ce que tu me racontes là, ça me fait penser à ma prof de PAO, que je salue si elle écoute, Caroline Lemaire, du temps où j'étais au Beaux-Arts. Et en fait, c'est vraiment une femme qui m'a beaucoup inspiré parce qu'elle avait vraiment pris le parti pris d'être graphiste pour des associations, beaucoup en local, vraiment une femme engagée. Et je sais qu'elle pratiquait des prix vraiment abordables et je pense qu'elle travaillait beaucoup. Mais voilà, c'était sa ligne, quoi. Mais tout le monde ne peut pas forcément faire ça, et c'est sûr que voilà, dans ses clients, il n'y a pas des grosses machines qui peuvent te permettre d'avoir des gros cachets, quoi. Donc et puis on s'arrange, j'imagine, avec son quotidien en fonction de ce dont on a besoin ou ce qu'on pense dont on a besoin, et de faire un peu l'équation, et puis quelle est notre situation ou combien on doit payer pour nos charges, enfin.
Ah oui, et puis. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, d'un point de vue privé, tu t'engages financièrement dans des choses. Tu peux acheter un appartement, moi j'ai des enfants, il faut payer les écoles parfois, il faut trouver l'argent, quoi. Aujourd'hui, effectivement, je suis confronté à des questions. Je me posais pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, moi j'ai bossé par exemple pour Fiat. Tu vois, ouais. C'est un super projet. Aujourd'hui, je crois que je rebosserai pour eux aussi. Mais tu vois, moi je circule à vélo. Je prône l'usage du vélo comme une solution à plein de problèmes écologiques, à plein de problèmes économiques. Et tout d'un coup, un constructeur t'appelle via une agence. Pour faire un projet sur l'automobile.
Payer 50 000 euros. Voilà. Est-ce que vous acceptez?
Voilà. Donc, oui. Il y a 10 ans, je me posais pas la question. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte de dichotomie dans mon cerveau qui se... Et là, tu dis, alors, je paie, je fais pas, voilà. Donc, c'est pas facile, en
non,
fait.
Non, c'est pas facile. Guillemets. C'est pas facile, mais c'est sûr que si la somme est jolie, ça pose vraiment la question.
Ça rend les choses plus difficiles.
Bien sûr.
Je pense que c'est facile de faire des choix éthiques quand on n'a pas grand-chose à y gagner, personnellement, quoi, ou financièrement. Et il faut avoir un grand sens de l'éthique pour aller au-delà. Et je pense aussi qu'il y a des personnes qui font parfois des choix radicaux. C'est par exemple, je sais pas moi, refuser un chèque à 50 000 euros pour une marque. Mais c'est peut-être parce qu'ils peuvent se le permettre aussi. Et, oui. ou pas, bien sûr, il y a tout dans la nature.
Tu parles de Kylian Mbappé? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est terrible parce que même quand on fonctionne bien dans le milieu de l'illustration, du graphisme, etc. Les boulots ils tombent pas du ciel, quoi. Il faut se battre pour aller les chercher. Il y a des opportunités à prendre. Et évidemment, quand on refuse un gros boulot parce que le client est un pollueur, une grosse marque qui s'en fout un peu de tout, un peu capitaliste, c'est difficile. Hein. Oui. C'est difficile.
Ah, c'est difficile alors. Après, c'est tu peux te dire que il y a des gens pour qui c'est évident qui ont une image de marque déplorable, tout ça. Bon, peut-être par rapport à ton éthique, mais je sais pas si c'est une marque, hein, on va avoir des procès. Mais après, c'est plus délicat pour des sociétés intermédiaires qui participent à la détérioration des choses. Mais tu vois, c'est comme l'automobile, par exemple, mais t'as le nucléaire ou l'armement, tu vois, tu peux dire l'armement, non, tu peux faire une croix sur l'armement, mais l'automobile les métiers de construction, tu vois, qui exploitent les terres un petit peu partout, récupérer du ciment, je sais pas quoi, enfin moi je sais pas comment ça marche, mais on voit bien que ou qu'on a des intérêts avec des pays plus ou moins voilà. Donc c'est difficile, et puis quand le boulot arrive, tu te dis quoi? C'est pas évident. Et après, tu te dis, t'as pas de boulot pendant un mois, quand t'en as un qui arrive, tu vas faire la fine bouche. Ouais.
Et des fois, c'est marrant parce que tu bosses pour ces gros clients-là, et après, tu bosses en presse pour un article qui va les dénoncer. Donc en fait,
ça m'est arrivé.
Et oui, t'es aux deux extrémités aussi de la chose. Arrivé, je trouve ça très intéressant d'un point de vue philosophique.
Ça m'est arrivé, et des fois, j'étais obligé de prévenir les gens. J'étais obligé de leur dire attention, parce qu'il y a un mois j'ai parlé de ça dans la presse et c'était quelque chose qui allait à l'encontre de vos intérêts, quoi. Ça m'arrive une fois ou deux d'être obligé de prévenir.
Mais après, voilà. C'est pas comme si t'étais un gros influenceur que tout le monde.
Moi, d'un point de vue moral, je me sens obligé de prévenir.
C'est ta position à toi.
Moi je me sens pas engagé ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. C'est un peu. Voilà. On parle de l'aspect financier, mais il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé encore, c'est, comme tu dis, c'est le prestige et la reconnaissance. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a 10 ans, tout le monde voulait bosser pour Nike ou des grosses marques comme ça. Mais aujourd'hui, t'as super envie aussi, parce que tu sais très bien ce que ça représente. Mais voilà, sauf qu'il y a des fabricants de chaussures qui font travailler des enfants au bout de la terre et qu'il y a des fabricants d'ordinateurs qui exploite tes données sans scrupule et qui te
complètement. Mais tu vois, Nike, ils vont avoir des fondations, Bill Gates, il a une fondation, donc en fait ils sont eux aussi encore à nouveau dans les extrêmes, en train d'exploiter, de profiter, et d'un autre côté ils redonnent aussi. Donc du coup, c'est vrai que qu'on les déteste, si on regarde les choses d'un point de vue un petit peu objectif, c'est pas noir ou blanc, quoi. Je sais plus qui. Ah, mais si, c'était avec Mathieu Genel, on en parlait parce qu'il a eu l'occasion de travailler pour McDonald's.
Mathieu Genel, qui fait le podcast Les Petites Histoires, qu'on a reçu en saison 4.
Exactement. Et voilà, la fondation McDonald's, c'est pas les restaurants McDonald's, sont deux activités différentes, même si c'est le même groupe. Et la fondation McDonald's, ils font des belles choses. Donc en fait. On peut aussi être
il faut pas
être éthiquement engagé dans des choses qui sont pas manichéennes. Oui. Voilà.
On peut être complètement manichéen, mais les questions se posent quand même. Et puis, tu peux, on parle de l'écologie, mais tu peux très bien parler du statut de la femme avec toutes les marques de cosmétiques, de prêt-à-porter qui donnent une image de la femme stéréotypée, etc. Mais tu peux aussi, on peut aller sur tous les terrains comme ça, quoi. Donc toutes les questions se posent quasiment sur tout, quoi.
Ça va être un de ces épisodes, on va se poser beaucoup de questions.
Ah, on n'aura pas les réponses, hein. C'est sûr. David, il le dit dans le chat, hein, les fondations permettent justement de payer moins d'impôts. Bah oui, évidemment, hein, c'est pas pour rien qu'ils en font. Mais voilà, faut voir après les actions. C'est toujours pareil.
Les actions.
Ce que tu mets, le call to action, ce que tu mets en pratique, c'est pas juste des mots et pas juste des belles paroles et pas juste des fondations où il y a rien dedans, mais comme le prince Harry, je sais pas si vous avez vu le reportage cette semaine. Bref, horrible, incroyable. une parenthèse, mais il y a des choses bien qui se passent aussi et voilà, faut pas, enfin faut rester. Moi, je pense qu'il faut toujours creuser, faut toujours poser des questions. Hein, si on justement on s'en pose, faut pas hésiter à poser des questions avec les clients avec qui on travaille. Mais faut pas non plus être complètement coupé des possibilités parce que je pense qu'il y a aussi de belles choses à faire. Et puis on peut bosser pour des marques qui a priori sont pas tout à fait de notre bord éthique, on va dire. Mais avec qui on peut faire avancer aussi les choses.
Oui, il y a un curseur. Ça dépend à quel extrême se trouve le client et son éthique. C'est sûr que si le Front National vient te voir, donc tu peux faire une affiche, tu dis non, désolé. Enfin, non, même pas.
Ah,
désolé,
si. Tu vois. Si, moi, je vais prendre le. Non, je plaisante.
Attention, Claude, ça peut se retourner contre toi, ce genre de
truc. Non, mais là, tu vois, là, c'était la question que je me posais il y a 10 ans, tu vois. Pour les extrêmes, tu dis, non, les extrêmes, jamais. Mais aujourd'hui, la question se pose sur la plupart des entreprises et puis des supports pour qui tu travailles.
Oui, c'est sûr que c'est devenu vachement plus flou. Avant, c'était plus manichéen, plus noir ou blanc. Et maintenant, en fait, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins, qu'on est responsable et qu'on n'est ni blanc ni noir non plus. Donc du coup, c'est peut-être un peu dealer avec notre humanité et notre complexité. Au sein de nos boulots, quels qu'ils soient d'ailleurs.
En même temps, je trouve que ça rend notre travail hyper intéressant parce que quelque part, t'es confronté à la réalité et t'es obligé d'y penser et t'es obligé de trouver des solutions, t'es obligé de te trouver des arguments et parfois même tu peux, en faisant un travail pour l'automobile ou pour, je prends l'exemple de l'automobile souvent, mais je peux prendre n'importe quel travail, tu peux glisser derrière ça quelques messages, quelques valeurs, tu peux quand même arriver à c'est ça qui est hyper intéressant. Puis ça te pousse aussi à réfléchir.
Puis il y a le greenwashing maintenant. Donc du coup maintenant c'est de plus en plus à la mode où du coup les marques vont embaucher du coup. Bravo. Oui. Mais en même temps ça. Genre c'est du greenwashing, d'accord. Mais de l'autre c'est peut-être mieux le greenwashing qu'autre chose, quoi, au final, dans le sens où ça c'est peut-être un peu caricatural, mais ça va dans une certaine direction.
Alors sur le greenwashing, t'attends, moi je les vois venir gros comme une maison, quoi, je les vois venir. Bon, après je joue le jeu, mais par exemple ça m'est arrivé, là j'ai fait une affiche il n'y a pas très longtemps, et puis je me dis il n'y a pas de dans l'affiche il y avait des personnages, mais il faut mettre un handicapé, il faut mettre des noirs, après quand tu vas dans les entreprises, regarde l'entreprise qui te demande ça, et tu vois quoi? Tu vois que des blancs hommes qui dirigent l'entreprise, et les noirs qu'il y a, c'est ceux qui font le ménage, quoi. Et après, à côté de ça, il n'y a même pas d'accès handicapé, quoi. Tu vois, tu t'es dit, là, on est un plan dans le greenwashing, quoi. Les mecs, ils te font chier avec ça. Ils ont probablement raison parce qu'on a besoin d'intégrer tous les gens handicapés, les noirs d'être plus inclusif. Mais d'un autre côté, c'est du greenwashing parce que quand tu vas dans l'entreprise, tu vois bien que eux-mêmes n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils essayent de véhiculer comme image, quoi. C'est quand même paradoxal, mais voilà.
Ne le sommes-nous pas tous? Il y a quelqu'un qui mettait dans le chat, mais enfin, personne n'est vertueux à 100%. Si on ne travaille que pour du clean alors qu'on est loin de l'être nous-mêmes, on va mal finir. Et c'est vrai qu'au final, cette petite équation à régler entre nous-mêmes et nous-mêmes, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça,
mais c'est très bien parce qu'on est rattrapé par, en tant qu'illustrateur, je pense qu'il y a vraiment 10-15 ans, personne ne se posait de questions sur quoi que ce soit. Là, on est rattrapé.
C'est bien de se poser des questions après.
On avait un gros client, on était content, point, barre.
Oui,
c'est très bien.
Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est bien de se poser des questions, mais c'est bien aussi de pas se scléroser et on pourrait presque virer dans une forme de puritanisme à ne plus oser rien faire parce que on est dans une société fucked up en fait, et donc du coup, on se dit à quoi bon.
Après, il faut essayer de résoudre ses propres équations, quoi. Mais
Louzago,
c'est bien.
Pardon, Claude. Excuse-moi, vas-y.
Toi d'abord.
Non, Claude, je t'en prie.
Non, toi.
Oui. Non, je disais que j'insistais sur le fait que c'est bien d'être confronté aux questions sociétales et de devoir y réfléchir pour travailler, quoi. C'est très bien parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer des choses sur plein de domaines. C'est à toi, Laurent.
Totalement. Non, c'est Lou Zagou, elle disait un truc intéressant aussi, c'est que les boulots de commande, c'est pas comme si c'était du travail personnel, ça reflète pas forcément qui on est.
Et je pense que c'est une bonne
posture aussi parce que c'est pas nos projets personnels. On en a fait notre métier, c'est-à-dire qu'on peut être appelé pour des commandes. Moi, je fais ça quasiment à 90%. Et évidemment, je peux choisir mes clients. C'est un petit peu aussi l'avantage de ce métier-là, c'est qu'on n'a pas un pistolet sur la tempe avec quelqu'un qui était obligé de le prendre. Donc on peut choisir, mais on doit être professionnel, c'est-à-dire que tant que ça ne bousille pas nos principes éthiques, je pense qu'il faut quand même être capable de répondre à un maximum de commandes, parce que justement on est là aussi pour améliorer tout ça. Mais je pense que chacun a notre patte et notre cœur à mettre dans ces boulots-là. J'ai bossé, ça devait être l'année dernière, j'ai bossé pour Total Energy par exemple. Donc, on va pas les présenter. Et je sais très bien aussi j'ai bossé. Mais c'était intéressant. Peut-être du greenwashing, mais bon, j'ai bossé sur les questions justement d'énergie durable, sur tout ce qui développe. Et voilà, il fallait faire des animations sur ça pour les présenter au public.
Je travaille aussi pour régulièrement. Ouais.
Il y a Atelier Lugus qui dit, mais est-ce que les boulots de commande ne font pas aussi un peu boule de neige? Genre, on bosse pour une affiche de festival et ça va en amener d'autres et tendre vers un alignement avec nos propres valeurs.
Ah, mais t'arrêtes quand tu veux, j'ai envie de dire. Enfin, à toi, Claude.
Oui. Alors, moi, j'ai trouvé. On pourra parler de comment sortir de cette équation.
Voilà.
Mais par exemple, sur les boulots de commande, j'ai trouvé petit à petit le moyen d'orienter mon travail vers. Ah, il y a un problème. Non, c'est bon. J'ai eu un petit problème sur l'ordinateur.
On passe toujours avec nous.
Ouais, ok. J'ai trouvé le moyen d'orienter petit à petit mon travail vers des choses que je cautionne. Voilà, par exemple, j'ai intégré de plus en plus dans mon travail. Bon, ça vous a pas échappé, les vélos.
C'est vrai, j'ai remarqué.
J'ai orienté mon travail aussi beaucoup vers la nature. Donc, il y a petit à petit, je travaille avec l'ONF, tout ce qui tourne autour de la nature, et puis le bien-être. Le bien-être, après, on peut aussi en parler beaucoup, mais si
tu
veux...
Et il y a un truc aussi, Claude, j'ai remarqué aussi que tu incarnais aussi des personnages féminins.
Voilà.
En plus, même quand c'est plus en plus. Parlé pour toi.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé le moyen, si tu veux, dans mon travail de commande, et c'est ce que je présente dans mon book et sur les réseaux, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais bien sûr, après, les gens viennent vers moi pour ça. Donc, petit à petit, tu décides là où tu veux aller. Alors, c'est pas radical, mais au moins, j'aurais probablement moins de demandes de la part d'industries polluantes et plus de demandes de la part de gens qui ont envie de mettre en avant la nature et le bien-être, etc.
Quand je t'écoute, je me dis qu'il pourrait y avoir deux postures, celle radicale et très forte dès le début, dont le travail, il est incontestablement d'extrême bonne qualité, avec un message fort, une éthique, donc faut réussir à vraiment bien maîtriser sa communication et son art et être, voilà, très fort, et ça met tout le monde d'accord. C'est l'illustrateur, c'est l'illustratrice qui va parler de ça, et elle a une éthique, voilà, top notch. Ou, peut-être essayer de rentrer par la petite porte et du coup de bien commencer quelque part. Laurent, ça fait 20 ans que tu bosses, Claude aussi, moi c'était une dizaine d'années. Donc au début tu fais pas la fine bouche, et puis après au fur et à mesure tu affines ton regard, ton travail, et il gagne en qualité. Donc du coup tu peux peut-être de plus en plus imposer peut-être tes sujets. Et ou peut-être là où tu as envie d'aller. Et peut-être même qu'en début de carrière, en fait, on a peut-être pas entièrement une conscience de
tout
ça. Quoique peut-être aujourd'hui, en 2023, ça allait beaucoup plus qu'il y a 20, 10 ans quand on se lançait dans ces métiers-là et qu'on était juste content de la gloire de faire du dessin et de gagner sa vie juste en faisant ça, quoi.
Disons que le changement de postulat, c'est que maintenant, en fait, de nos jours, on peut démarrer avec même une landing page où on parle de son positionnement éthique. Ça se fait. Moi, à l'époque, un Tumblr d'illustrateur et point barre, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis, j'avoue quand même que la première partie de ma carrière, même pour la plupart des gens, on se focalise sur le style graphique. Voilà, on essaye de vendre un style. C'est ça qu'on faisait au départ, quoi. Et puis petit à petit, bah en fait, tu peux aussi imposer, enfin chercher ton style, mais chercher ton éthique, les sujets dont tu as envie de parler, comme tu dis, Laurent, et puis là où tu as envie d'aller, vers qui tu as envie de travailler, etc., quoi. Donc, je pense que ça, c'est à réfléchir en même temps que le travail de style. Le travail de style, comme on a parlé de moi, par exemple, il y a un truc que j'ai pris conscience. J'en avais déjà parlé de ça, mais c'était le style. À propos du style, c'était pas seulement graphique. Moi, j'avais pris un parti pris d'aller vers des choses positives, enjouées, enthousiastes. Voilà. Donc, tu peux aussi faire ça par rapport à des prises de position.
Tu te présentais comme ça en tant qu'illustrateur.
Voilà. Et c'est pour ça que les gens viennent me chercher. Hein. Et donc, tu peux aussi te dire, moi, je serais plus pour l'engagement politique, plus pour la nature, plus pour je sais pas, enfin tout ce qui te trouve que tu trouves que est essentiel. Mais ça se travaille, je pense, ça se travaille dans ton book. Puis après, on fait ce qu'on peut aussi. Hein.
Voilà. Mais la réflexion de David tout à l'heure, elle me fait penser au fait que justement, ça je pense, par ton avis là-dessus, Claude. C'est qu'à un moment, même si on se positionne, même si on développe une carrière en illustration, etc., et qu'on apporte quelque chose, une voix, un style, il y a un moment, il y a forcément des débats, malgré Léo, il y a débat, et il y a cette perte de sens qui peut arriver, tu t'y attends pas, elle est là, et en fait, c'est ce qu'on appelle une dépression artistique, créative, et tu remets tout en question, en fait, c'est-à-dire que tous les choix que tu avais faits, tu trouves plus le sens et t'arrives plus à accorder les pièces du puzzle.
Ah ouais, c'est vrai, c'est.
Ah, c'est dur. Hein.
Je sais pas si ça m'est arrivé. Moi j'ai quand même le sentiment de me poser tellement. On le voit à travers mon blog, hein, que je me pose tellement de questions.
Ça t'aide à garder ta santé mentale quelque part, hein, c'est bien. Hein.
Ah, tu devrais faire un test.
Qu'au final. Quand je prends mon parcours, j'ai l'impression d'avoir été dans une forme de mouvement tout le temps.
Ouais, c'est ça qui est important. Ouais.
Et c'est ta réponse, c'est ça. C'est-à-dire que le fait, justement, d'être en mouvement, ça évite la dépression et donc l'inertie et que du coup, on avance, quoi. C'est-à-dire que, on se pose les questions, mais en avançant.
C'est ça. Et puis, exactement. Et puis, c'est tout ça, c'est à chaque, avec tout un tas de périodes de doutes, mais qui sont pas des doutes, handicapant à long terme, tu vois, c'est un mois ou maximum, et puis après tu rebondis, tu explores des nouvelles choses, graphique, t'as envie d'aller vers ça, plus, enfin tu vois, c'est, et moi j'ai un sentiment que, oui, j'ai toujours été en mouvement, donc du coup, mes engagements, je les ai jamais trouvés définitifs, voilà.
Oui. Mais je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire, Claude, parce que on pourrait souvent se scléroser et tergiverser, et trop penser, overthink the thing avant de faire quoi que ce soit pour être sûr d'être juste, d'être correct, d'être éthique, d'être moral et tout, et qui sont des questionnements légitimes et très importants d'ailleurs. Mais au bout d'un certain temps, je sais que moi j'ai vécu ça à mon échelle. J'ai eu à un moment donné, j'ai eu besoin d'arrêter de vouloir que tout soit juste et justifié, parce que justement, comme le disait quelqu'un dans le chat, on est tous paradoxaux, on n'est pas à 100% round-up, excusez-moi, je vais continuer de faire des anglicismes, et donc du coup, la solution. Et donc, la solution, pour moi, ça a vraiment été de me mettre en mouvement, et là, je suis retourné quelques années en arrière, mais j'ai fait tout ce travail sur la vulnérabilité, et en fait c'était super important, parce que le fait d'accepter de mettre un pas devant l'autre en sachant que c'est pas à 100% juste, il y a une part d'ignorance, il y a peut-être une part de candeur, il y a peut-être une part de peut-être aussi de déni volontaire ou involontaire ou que sais-je, mais en tout cas le fait de se mettre en mouvement et de mettre une position créative, et c'est en ça que sur Sens Créatif on croit vraiment, c'est pour ça qu'on dit souvent dans notre générique là, que, enfin, on dit tout le temps que c'est une quête initiatique et holistique, c'est qu'en fait, ça englobe tout, et que au lieu de vouloir attendre d'avoir la bonne formule, faites un pas devant l'autre et puis corrigez en cours de route, et vous vous sentirez vivant. Et moi, je me suis senti tellement vivant quand j'ai arrêté de vouloir que tout soit juste avant de me mettre en action. Et c'est cette action qui m'a apporté beaucoup de vie. Je veux dire, ce podcast en est le, ça en est la représentation. C'est l'histoire. Mais voilà, c'était une période de crise. Et puis, je me suis dit, ben non, ben, j'ai créé quelque chose. Et 5 ans plus tard, on est toujours là.
Oui, ouais, bah, le mouvement, c'est même l'objet d'un article que j'avais écrit. Pour moi, c'est vraiment un truc, mais c'est essentiel. Quoi. C'est d'être actif, de faire des choses et d'avancer. Et puis, moi, finalement, jamais rien n'est fini. Jamais rien n'est fini. Tout est en... Voilà, donc j'avance dans mon graphisme, j'avance aussi dans mes idées, j'avance. Alors c'est pas recherché, je pense que c'est une nature chez moi d'être en mouvement et d'aller plus ou moins explorer et puis d'aller un peu là où le vent m'emporte tout en essayant d'aller là où j'ai envie d'aller hein, bien sûr, mais ouais, le mouvement c'est important je pense. Et aujourd'hui je parle de vélo et de nature, mais je me dis pas t'es l'illustrateur du vélo ou l'illustrateur de la nature ou le non, en fait aujourd'hui on m'appelle beaucoup pour faire des illustrations autour du thème du vélo, mais demain si ça se trouve j'en sais rien, je parlerai de je sais pas de quoi, mais je m'autorise et voilà aller
à
voir
à changer
voilà.
Ouais, c'est important voilà. De se laisser cette liberté parce que justement aussi souvent en tant qu'illustrateur ou artiste on nous appelle parce qu'on a un style, parce qu'on a un sujet, mais en fait, on est libre, chacun, chacune, en fonction des saisons de notre vie, de changer, d'évoluer, puis de se laisser porter. Mais je pense que ce qui serait, ça paraît un peu réducteur, ce que je vais dire, mais un peu bien, c'est au fur et à mesure d'apprendre à se connaître et de tendre vers un alignement sans se laisser scléroser par l'alignement. C'est ce dont on a parlé avec Myriam Multigné l'année dernière. C'est que c'est pas l'alignement.
La pire des choses, c'est la procrastination absolue.
Ouais. L'alignement comme fin, c'est pas du tout une bonne chose. Mais en fait, comme moyen de tendre vers quelque chose qui est de plus en plus en accord avec nos valeurs et qui, j'espère, sont des valeurs qui construisent notre humanité partagée et compagnie. C'est des grands termes, mais je le crois vraiment, en fait. Et c'est à des micros engagements comme les nôtres, que ce soit dans notre travail, mais aussi à côté, que les choses peuvent changer. Et puis, parfois, en fait, on fait beaucoup de merde, on dit de la merde et on se trompe complètement et on n'est pas du tout suffisamment engagé. Et donc, du coup, soit de changer, soit d'avoir de la compassion et de l'indulgence envers soi-même, les autres. Bon, j'ai l'impression de...
Et puis, il faut pas oublier. Genre, j'avais lu ça dans un livre d'un un illustrateur. Je me souviens plus qui avait dit ça, mais un Américain. Il a dit surtout, il faut pas oublier, on ne fait que de l'illustration, quoi.
Oui.
Je veux dire, faut pas. On n'a pas notre métier n'est pas. C'est pas une mission. C'est pas essentiel. C'est
quoi?
On ne fait que de l'illustration, quoi.
Ouais. Donc,
quand tout va mal dans ton métier. Ouais, enfin, tu le fais avec l'illustration, quoi.
Mais c'est une belle chose. Je me souviens, j'ai aussi vécu ça, je pense, il y a une quinzaine d'années où j'étais genre, mais je suis pas médecin, ouais. je suis pas dans l'humanitaire, je sauve pas des vies, c'est quelque chose de très important. Mais en réalité, créer de la beauté, c'est quelque chose de précieux.
Ça peut faire du bien. Non, mais ça peut faire du bien, mais.
Imagine, on vivrait dans une nature moche, tu sais, genre la nature autour de nous.
Ouais.
Et en fait, elle est superbe. Ça nous fait du bien. Pour moi, de contribuer à créer du beau, c'est rien que ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut se targuer de faire un peu des choses belles. Mais dans l'absolu, tu vas en Ukraine en ce moment. Je veux dire,
c'est essentiel, quoi. C'est sûr.
Et oui, mais ça n'empêche pas. Alors, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'en Ukraine, n'empêche que tout le milieu culturel ukrainien est absolument à fond. Ils sont à 100%. Ils créent des choses. Il y a de la musique, il y a de l'art, il y a vraiment pas mal de choses.
C'est un outil de résistance, en fait.
Vrai, c'est un outil de résistance qui est fondamental. Il n'y aurait pas ça de toute façon. Ils se feraient annexer aussitôt parce qu'ils défendent leur culture.
Je crois vraiment que dans les périodes de crise, c'est là où en fait l'art est le plus important. On voit dans l'histoire de la musique, en fait, je veux dire, les mouvements musicaux se sont toujours développés en réaction en révolte à, pour faire entendre la voix de telle minorité, de tel peuple, etc.
Le blues, le rock,
le
punk.
Oui, d'accord. Mais alors là, on revient sur le vieux débat. Quand je fais une illustration pour une grande marque de chaussures. Est-ce que je fais de l'art, quoi? Tu vois, c'est.
Oui, c'est du travail de commande. Oui, oui.
Voilà, c'est du travail de commande. Donc, quand je parlais de, on ne fait que d'illustration, je parlais de, on ne fait que d'illustration, de commande, quoi.
Ah c'est oui. Ça.
Bien sûr. Oui, bah, après, bien sûr, tu peux faire des affiches pour tes quartiers, pour égayer les enfants, pour, j'en sais rien, pour véhiculer des idées et ça. Mais sinon, je parlais de du métier en tant que tel, de gagner sa vie en faisant de l'illustration, quoi.
Je ouais, bien sûr, ça. Bien sûr.
Voilà. Mais c'est vrai que, l'art dans les moments de crise importante et dans les guerres, bah oui, c'est essentiel, quoi. Ça permet à des gens de garder de l'espoir et puis,
Je sais qu'il y a pas mal d'artistes aussi de commandes qui réussissent un peu à trouver leur équilibre en faisant du travail de commande jamais comment dire éthiquement extrême mais qui est un petit peu au milieu genre
c'est ça
et du coup de gagner leur vie avec ça et à côté de faire du bénévolat ou bien de s'impliquer dans des associations ou bien de faire des dons ou bien simplement de vraiment dans sa vie de tous les jours
Oui,
c'est sûr qu'il y a le questionnement de tout fractionner. Enfin, je sais pas trop où je vais avec ça, mais c'est le fait de réinvestir quelque part l'argent que tu gagnes et de s'engager pour le bien commun.
Oui, voilà. Et donc là, on peut
toujours cette possibilité.
Oui, c'est ça. On peut en vivre après. Comment donner du sens à notre travail, si tu veux. Il y a plusieurs options. Quoi. Ouais. J'en ai repéré trois, en gros.
Vas-y.
Voilà. Alors, la première option, c'est d'en avoir rien à fiche. Tu t'en fiches, tu pollues, tu t'enrichis, t'en as rien à foutre, et puis voilà quoi. Ça, c'est la première option. Donc c'est pas celle que j'ai choisie, mais on peut choisir cette option-là.
L'ambiance, bon. Direct.
Voilà.
Et une page de publicité.
Un commentaire. Voilà. Option 2.
Non, mais c'est une option. C'est une option. C'est-à-dire que tu peux choisir d'en avoir rien à foutre, et puis voilà. Mais bon, après on pourra. Voilà, après tu peux changer de métier, c'est la deuxième option. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, donc tu fais boulanger ou infirmier ou
tu t'engages pour des causes humanitaires.
Voilà, tu changes de métier parce que ouais. Tu vas dans un métier qui a du sens, tu fais agricultrice ou je sais pas quoi, enfin, qui a du sens quoi. Et puis la troisième option, c'est un peu l'option un petit peu de compromis, un peu, et là tu peux voir plusieurs niveaux d'engagement, niveaux de possibilités. Donc, déjà, faut prendre conscience que ton métier en tant qu'illustrateur n'est quasiment pas éthique, comme je le disais. 90% des fois, voilà. Tu peux choisir de travailler pour certains secteurs et pas pour d'autres. Tu vois, tu peux te dire, tout ce qui est automobile, viande, industrie agroalimentaire, je travaille pas. Tu peux choisir de travailler avec les communautés de communes ou les mairies. Là, il y a du boulot, quoi. Tu peux faire des choix comme ça, quoi.
Mais je pense que vraiment le travail engagé, c'est à de plus en plus d'ailleurs, et probablement à juste raison, et tant mieux, en poupe. Genre on a qu'à voir toutes les illustratrices féministes. C'est devenu, on pourrait presque dire, un style de faire l'illustration féministe.
Voilà.
Donc du coup, quelque part, là, c'est entièrement raccord entre les valeurs de la personne et l'art qui est produit et les clients qui veulent mettre en avant ce type de sujet. Donc là, pour le coup, c'est strike
alignement total.
Début à la fin, quoi.
Voilà. Après, tu peux aussi accepter toute forme de commande, même pour les industries que tu considères comme polluantes ou dégradantes pour le genre humain, et te dire ok, j'accepte ça, par contre je m'engage à côté à faire des travail gratuit pour des associations ou pour des mouvements que tu cautionnes, quoi. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Et puis il y a aussi la possibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est d'orienter ton art vers des choses, enfin, ton art entre guillemets, vers des secteurs d'activité, vers des causes que tu as envie de défendre.
Oui.
T'influences par ton travail, par tes propositions graphiques, poétiques.
Voilà, c'est ça. Donc là, dans cette option 3, en fait, tu n'es pas complètement éthique à 100% parce que c'est quasiment impossible, mais tu essayes de te trouver
des valeurs. Hein.
Des valeurs, des portes de sortie pour que tu sois bien avec ta propre conscience, quoi, parce que sinon t'arrêtes et tu fais agriculteur, quoi. C'est voilà.
Ouais, pas tout de problème.
Bio.
Ouais, bio, parce que bio. Sinon, wow, c'est dur.
et en local.
Moi, cette troisième solution me semble la plus la plus intéressante, la plus un peu complexe aussi. Mais
c'est la plus complexe, ouais.
Mais pas impossible.
Bah oui, c'est. Il faut jongler, quoi. Il faut jongler entre une sorte d'équilibre.
Ouais. Après, dans ta première option, j'y reviens parce que du coup, j'ai eu le temps de réfléchir. Sur le moment, elle m'a dit waouh. Et puis, en fait, tu dans la première option, il y a aussi le fait de le sens. C'est je bosse pour ma famille, tu vois, par exemple.
Ouais.
C'est pas juste je m'en fous. C'est j'ai fait mon choix. Cette société, elle me sort pas être payée. J'en ai marre de tout, mais il y a un truc que je défendrai au bout.
Ah bah, mais celui qui applique ça et qui il est sûr de ce qu'il fait, ça a du sens. Ça a du sens pour lui.
Pour lui, mais, ouais. Après, pour en fait, lui, que mais... le monde est devenu un village, donc du coup.
Ah, mais le sens, c'est pas. Il n'est pas obligé d'être universel non plus. Hein. Faut pas se. Non, mais on n'est pas obligé de se forcer à ça parce que c'est une énorme injonction.
C'est vrai.
De se dire, oh là, je suis pas écolo, je suis pas éthique. Bah, c'est horrible.
Non, mais.
Si
non, mais c'est.
Tu l'es un peu quand même, gars.
Ouais, bah, c'est. Il faut trouver son propre équilibre. Bah, après, moi, je juge pas. Hein. Chacun. Chacun balaye devant sa porte, mais moi j'ai trouvé mon espèce d'équilibre comme ça. Donc je continue mon métier. Je sais que je serai jamais 100% éthique dans l'exercice de ce métier. Je sais que je le fais en très grande partie pour moi, pour mon intérêt personnel, c'est-à-dire j'y prends plaisir, je gagne ma vie, je voilà, c'est très égoïste. Mais j'essaye quand même de trouver des petits arguments pour essayer de que ça soit plus vivable, quoi.
Franchement, à ta hauteur, maintenant, quand on pense Claude, on pense vélo, tu vois. Et
ouais.
Moi, ça fait une dizaine d'années que je te connais maintenant, je crois. Un petit peu moins, peut-être. Non, mais je veux dire, il y avait déjà un peu du vélo dans ton boulot, mais c'était pas autant associé qu'aujourd'hui. Le vélo, c'est clairement associé à toi en tant qu'illustrateur.
Si il y a un dessin de Claude sans vélo, on se pose des questions. Il est mieux. Charlie ou sans vélo.
On pourrait se dire à une échelle, à une grande échelle. Bon, qu'est-ce que très, je dis pas mes phrases. Mais en réalité, le vélo, il y a ce côté. Voilà, il y a ton engagement, tout en ne reniant pas un peu ta personnalité, le côté positif que tu as envie d'insuffler. Il y a de l'écologie, il y a de la légèreté, une forme d'engagement. Tu le fais dans ta vie de tous les jours. T'en parles, je sais pas, Vélo Magazine t'interviewer, que tu répondrais avec grand plaisir. Et pas
bien
que
sûr.
Pour dire que le vélo, il est joli, mais qu'en fait, il a une vraie application.
Ah bah, oui. Mm-hmm.
Et je pense qu'à notre échelle, c'est ça qui, voilà, si on est identifié vraiment sur certains sujets et qu'on le fait avec,
honnêtement, avec conviction.
Ouais, voilà. Bah, du coup, ça fait un petit peu tanguer les choses du côté du bien, de la force, tout en sachant qu'aucun Jedi et aucun Seigneur Sith n'est entièrement noir ni entièrement blanc d'ailleurs.
N'est-ce pas, Mace Windu?
Voilà.
Qu'on parle. On a atteint l'heure d'enregistrement, les amis, et j'ai noté deux, trois questions
oui.
qui valent le coup. Et alors, la première, ce que j'ai envie de poser, c'est de Loubini, qui nous dit: comment vous faites pour reprendre le mouvement quand vous êtes bloqué? Allez-y, les tips. J'en ai un.
Moi aussi, j'en ai un.
Vas-y, Claude.
Je prends mon vélo, je vais faire un tour.
Voilà. Et voilà, la boucle est bouclée.
Voilà, non, mais c'est vrai, hein. Je déconne pas, hein.
Voilà, on peut transposer ça, le simple fait, voilà, de, simplement, je suis bloqué. Je sors, en fait. Je sors de chez moi. Je sors de mon environnement de travail. Et je vais m'aérer l'esprit, hein, au sens large du terme. Donc, c'est prendre le vélo, aller marcher, aller courir, faire du sport, faire une activité. Et ça, du coup, ça t'apporte quoi pendant et après? Est-ce que c'est dur au début de t'y mettre?
Tu parles à moi, là?
Ouais, à toi, Claude, ouais.
Oui, bien sûr. Oui, l'expérience, c'est que quand t'es bloqué, plus t'es bloqué, plus tu t'enfonces, plus t'es bloqué, et moins t'as envie de partir, parce que plus tu paniques.
Donc, ton déclic, ton process, c'est quoi? Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais?
Je le sais, je le sens venir, ouais. Et je me dis, j'identifie, ouais, je me connais par cœur. Et je me dis, bon voilà, il faut y aller, quoi, il faut sortir. Et je sais que si je le fais pas au moment où l'idée me vient,
ouais,
ça va s'enliser. Donc dès que j'ai ce moment où je me dis, il faut que tu sortes, prends ton vélo et va faire un tour, il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite. Donc je le fais tout de suite, même un quart d'heure, hein, je t'assure, même un quart d'heure. Et tout d'un coup, tu te dis, mais putain, mais comment ça se fait que je me suis pris la tête? Et les rares fois où je le fais pas et j'y vais une demi-heure après, Je me dis, mais qu'est-ce que t'as attendu une demi-heure de trop pour ne pas le faire, quoi?
Totalement.
J'ai appris, c'est pas facile.
J'ai remarqué aussi, ça marche aussi pour les siestes, parce qu'en fait, c'est un truc aussi, la sieste, c'est la loose, la sieste, c'est pas bien vu dans nos sociétés. En réalité, c'est hyper important de faire des pauses dans la journée. Et franchement, quand je suis claqué, j'en ai rien à faire. Je me dis, bah là, j'ai 15-20 minutes, je vais m'étaler. Il est là-bas, hein. Je vais m'étaler dessus. 15-20 minutes, je ferme les yeux, je pense à rien. Et sincèrement, je redémarre après, quoi. C'est des choses toutes bêtes. Simplement, bah, j'ai la chance, je suis pas loin du bois de Vincennes, donc je peux aussi aller me balader. Ça marche aussi. Il y a jamais rien de mieux que de s'aérer l'esprit, évidemment, quoi. Et ça peut être, voilà, ça peut être se balader, mais ça peut être faire des rêves aussi. Et rien foutre, c'est bien. C'est important parce que c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Ménage ta monture.
Et est-ce que Lou, vous ne voulez pas faire référence à la perte de sens aussi?
La perte de sens.
Je me demande, je me questionne.
Ah, alors voyons la chose de façon plus fine. Quand on est bloqué, ouais. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette perte de sens qu'on peut avoir, un gros blocage créatif.
Ouais. Là, j'avoue qu'il faut du temps. Hein.
Ouais.
Il faut du temps parce que. Il faut y réfléchir, mais il faut du temps. Parce que sur des questions comme ça, tu te couches pas le soir avec la question et avec la réponse le lendemain.
Et
il faut du temps.
J'ai plombé l'ambiance. C'est un processus de deuil. C'est-à-dire qu'on a des idéaux, des croyances, des valeurs qui nous ont peut-être mis en mouvement au début de notre chemin.
Qui sont mis après, à mal.
Qui au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a une forme de naïveté, on a un enthousiasme, on se dit on va y aller, on déploie énormément d'énergie, et puis après au fur et à mesure du process, on ne peut plus rester aussi naïf ni aussi ignorant qu'on l'était au début. C'était ok quand on était au début. Au fur et à mesure du process et d'avancer sur son chemin, on se rend compte des mécanismes, des choses qui sont peut-être pas jolies, autant chez nous que dans le système auquel on contribue. Et là, au fur et à mesure, vient justement ce moment un petit peu compliqué où on se dit, alors comment est-ce que je deal avec moi-même, avec ce système qui est plus fucked up et beaucoup plus compliqué et pas du tout aussi binaire que j'avais cru. Donc, vient un moment où on fait chacun nos petits arrangements et ça peut durer des années et des années. Et au bout d'un certain temps, il y a peut-être ce moment où on se dit, bon, vient ce moment de crise, en fait. Et donc, il y a ce questionnement, est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et en fait, la difficulté, c'est justement, je crois, c'est ce processus de deuil. Je sais que c'est un peu, peut-être un peu perché, un peu méta, ce que je dis là, mais c'est le fait de vraiment accepter que j'ai été comme ça dans mon parcours il y a peut-être 10 ans. J'ai cru ça de telle manière et je le crois plus comme ça. Pour ceux qui me connaissent bien, vous me voyez un petit peu arriver, vous savez un petit peu à quoi je fais référence, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines de vie, en fait.
Ah oui, totalement.
Et donc, du coup, il y a ce moment où, en fait, tu te dis, bon, ben, le deuil, on sait tous, hein, c'est comme t'as dit, Claude, en fait, au final, c'est le temps qui passe, il faut pouvoir l'accepter. Il y aura peut-être de la colère contre soi. Comment j'ai pu être aussi con? Comment j'ai pu être aussi naïf? Comment j'ai pu avoir ces idées-là, putain de temps? Et puis, après, faire peut-être un travail sur soi, être indulgent. Et puis après, se réinventer. De réinventer, trouver des nouvelles solutions, peut-être trouver des solutions au cœur du système dans lequel on est. Donc, pour le coup, par exemple, pour l'exemple dont on parle, les métiers créatifs ou l'illustration, changer peut-être les sujets, peut-être refuser certains sujets ou certains clients que auparavant on acceptait, ou peut-être de se dire.
Faire évoluer le style aussi, hein. C'est important. Des fois, on est plombé par notre style et on n'ose pas changer.
Et puis après, on évolue. Et puis, ou peut-être il y a besoin d'une rupture et qu'on se dit bon ben je vais peut-être faire carrément autre chose. Et ça veut pas dire que c'est totalement dead. Peut-être qu'on pourra revenir de manière renouvelée et différente à ce craft qu'on aimait, et peut-être que pendant un temps il faut faire une pause et savoir que ça prend du temps. Je veux dire, il y a les saisons, il y a les 4 saisons de la vie. Je sais que je suis sur mon monologue, les gars, mais l'être humain, et je l'ai dit, je pense, dans l'épisode 12 de Sens Créatif, l'être humain, on est un peu une des seules espèces, j'ai l'impression, on se dit qu'on va tout le temps être au beau fixe en été, alors qu'en fait, pour être en été, il y a besoin du printemps, il y a besoin de l'automne, de l'hiver. Et quand c'est l'hiver, c'est-à-dire le moment de crise, de remise en question, on se dit « Oh my God, oh my God, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mourir. » Alors qu'en fait, ça fait partie du processus. Il y a des animaux qui hibernent pendant 4 mois, pendant 6 mois, et enfin, je veux dire, voilà, les arbres perdent leurs feuilles, et puis après... tout ça, en fait, c'est un processus de mourir, renaître, mourir, renaître. Et c'est vraiment le moment supra-méta de l'épisode. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut réjaillir de ses cendres, en fait. Bon, voilà, j'ai fini.
C'est Phoenix.
Oui, après, si on veut être un petit peu plus concret, quand on est confronté à des questions un peu d'ordre général comme ça, par rapport à notre métier, on peut aussi en discuter avec d'autres illustrateurs, d'autres illustratrices. On compte peut-être des solutions, qu'on peut peut-être réfléchir à la question et puis te dire, dans tel cas, qu'est-ce que tu penses, toi, comment tu réagis face à une situation comme ça? Ça ne donne pas forcément la réponse à des questions, mais ça peut donner des pistes de réflexion.
Et ça met en mouvement.
C'est
juste la piste, c'est pas une réponse, mais c'est le mouvement. Et donc, du coup, en fait, la personne n'est pas censée te donner la réponse. La réponse, c'est toi qui la trouves. Mais si tu te mets en mouvement, la réponse, au bout d'un certain temps, ou un élément de réponse, te satisfera et te redonnera de l'élan, en fait. Donc, faut pas rester seul, quoi. Entourez-vous, rejoignez le Patate Club et écoutez Sens Créatif, c'est trop important.
Ben, n'hésitez pas à réagir à cet épisode pour faire durer le plaisir et la conversation. On a peut-être une dernière question, et là, elle est adressée pour toi directement, Claude, et de la part de David, Atelier Lugus. Est-ce que Claude arrive vraiment à ne pas se juger? Ou à ne pas juger? Moi, j'ai beau vouloir être bienveillant, de voir des personnes autour de moi, éduquées, informées de l'état de la planète, qui bossent pour Airbus, ou se font construire une piscine. J'ai beau me dire que je n'ai pas à les juger, je ne peux m'empêcher de temps en temps de penser qu'ils nous précipitent dans une fosse commune.
Ah non, mais bien sûr, je juge tout le temps, tout le monde.
Soyons honnêtes.
Bah bien sûr, et puis je suis en colère contre plein de gens, contre plein de. Après, je prends un peu de recul, quoi. Je me dis, mais toi, on peut très bien me juger aussi sur la façon dont je fonctionne, avec tous mes paradoxes et sortir du jugement et peut-être une fois que t'as jugé et que t'es en colère, qu'est-ce que tu fais, quoi? Enfin, avec ça, tu peux rien faire. Bah, peut-être qu'il faut. Tu vas pas convaincre un mec de combler sa piscine, mais en fait, c'est plus général. Il faut
la colère, pour moi, c'est un super moteur, mais c'est pas un bon sur la durée, ça marche pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous met en colère, et donc du coup, déjà de un, de pas se juger d'être en colère, de deux, de peut-être pas aller fracasser la personne directement, ce serait peut-être une mauvaise idée, mais ensuite de transformer cette colère créativement. Supposons qu'on est complètement outré par quelque chose qu'on voit. Si on pose un acte créatif et par définition a priori non violent parce que c'est créatif, on contribue à changer les choses dans la direction qui nous paraissent être importantes. Mais c'est cette colère. C'est Bernard Weber qui disait, moi j'y crois pas au mythe de l'écrivain qui est pas énervé, en fait. Genre, on a tous besoin de cette petite colère pour se mettre en mouvement. Moi, je sais que je suis à la base un peu colérique. C'est grâce à ça que j'ai envie de mettre la main à la pâte et de changer des choses.
Si on peut prendre un exemple concret, encore une fois par rapport au vélo, mais moi je circule à vélo tout le temps.
Et je jure sur les gens dans la rue qui sont en voiture.
Non. Et je vois plein de gens en voiture qui ont des comportements. Alors après, à vélo aussi, il y a des gens qui ont des comportements. Mais je vois. Moi, de mon point de vue, avec mon biais de, je vois des gens qui circulent la voiture qui ont des comportements de dingue, et je suis juste en colère après eux, parce que les mecs, ils vont chercher leur club en laissant tourner la bagnole, enfin, ils se gardent n'importe où, etc., ils prennent l'espace, ils n'ont rien à foutre. Mais alors après, ça, c'est la colère, mais après, moi, je transforme cette colère-là en disant, ok, t'es en colère, le mec, tu peux soit lui en parler, mais tu sais que tu vas prendre une patate. Ou alors, tu rentres chez toi, tu fais un vélo, et quand tu fais un vélo dans un magazine, la portée sera 10 fois plus productive et plus, voilà. Voilà. Mais par contre, je trouve pas que les gens sont bienveillants. J'ai une idée de la nature humaine qui est plutôt pessimiste, quoi.
La créativité, du coup, est un acte créateur positif, pas toujours, mais quand même, qui contribue, je crois, à quelque chose de. Ça peut être un pansement à notre pessimisme aussi, c'est qu'à notre hauteur, on est des petites fourmis, mais en fait, à notre hauteur, on peut faire un petit quelque chose. Ça me paraît un petit peu bateau dit comme ça, mais je le crois vraiment, quoi.
Bon, écoutez, hein, j'espère qu'on a peut-être de sens, en tout cas, un petit bout de chemin ensemble. Claude, si on veut du rap de Claude, où est-ce qu'on va se servir?
Du rap.
Ben, je sais pas, moi, sur les réseaux, sur Instagram, sur mon site. En gros, je publie une fois par mois un article, c'est à peu près ça. Et soit une réflexion, là, comme là, la quête de sens, ou alors, de temps en temps, comme tu disais, j'interview une illustratrice ou un illustrateur dont j'aime bien le travail et je lui pose des questions, voilà, sur tout ça. Et puis, donc, c'est à peu près une fois par mois, voilà, sur mon site, puis sur les réseaux. Voilà.
On vous mettra les liens en référence.
Voilà.
C'est parfait, très bien. Bah, écoutez, je pense on a fait une belle discussion, c'est pas mal, on est dans les temps. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez continuer la discussion sur le Discord, vous êtes les bienvenus sur le topic des épisodes. Jérémy, on se retrouve pas la prochaine fois, je crois.
Alors moi, je serai pas là parce que je serai en vacances, mais toi, tu seras là.
Je serai là.
Radio Patate numéro 3 la semaine prochaine pour découvrir le programme du mois de mai et il sera joli, on vous le promet. Soyez là la semaine prochaine pour savoir un peu plus sur voilà ce qui vous attend et toutes les petites actualités du Patate Club. Ce sera Laurent tout seul ou et en compagnie de quelqu'un.
Il y aura quelqu'un avec moi. Il y aura peut-être Jade, mais il y aura aussi quelqu'un d'autre.
Mystère.
La personne est dans le chat, elle ne le sait pas encore. Mais
En fait, vu que je suis en vacances, je ne suis pas du tout au courant. Donc du coup, c'est vraiment Laurent qui gère. Donc je vais être, je vais être surpris moi aussi. Voilà. Merci beaucoup Claude d'avoir été avec nous. Toujours, oui. Toujours un plaisir. Merci à vous tous et toutes et tous d'avoir été présents de nouveau. Et sur ce, ben, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne suite de semaine et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao les amis.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
Everything is connected!
Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger.